Mon père, il vient du Liban. On pratiquait, on fréquentait la communauté orthodoxe de Genève. Et j'ai été torturé par les questions existentielles. Pourquoi j'existe? C'est quoi le but de la vie? Qu'est-ce qu'il y a? Dieu existe? Il y avait un cours, une fois toutes les 2 semaines, d'un rabbin, il m'a allumé. Il m'a allumé de allumer. Et là, j'ai décidé, je serai religieux. J'irai à la yeshiva. Et je reste en Israël. Alors, j'ai les copains, j'ai une annonce à vous faire, voilà. J'ai fait tchouva. Je monte 3-4 partout quand j'entends un cri en yiddish. Oh, j'étais glacé. Yiddish. Il me dit, dis, ça t'intéresse d'apprendre des conférences de Arachim et de commencer à faire choix? Ouais, ça m'intéresse. Les gens arrivaient vendredi après-midi, ils partaient dimanche après-midi en pleurs. Il m'a dit, tu es dans l'appartement qui appartenait à ton arrière-grand-père. Ce cours est dédié pour l'élévation de l'âme de David Ben Masoda, Zecher Tzadik Livracha, de mémoire bénie. Alors, la question de Jérémy.
Je voulais savoir, est-ce que vous pouviez nous raconter un petit peu quelles ont été les étapes de votre processus de Tshuva, qu'est-ce qui vous a fait avoir cette révélation et...
Aïe, 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 aïe. Je ne sais pas où commencer. Alors, on va commencer il y a 4 générations. J'avais un arrière-grand-père qui venait de Boukhara. Boukhara, c'est l'Ouzbékistan. En 1873, lui et toute sa communauté, enfin une bonne partie, sont venus à dos de chameau. C'est des gens riches. À dos de chameau, ils sont installés à Jérusalem et ils ont créé un des premiers quartiers hors de Jérusalem, hors des murailles. Le quartier qui s'appelle aujourd'hui le quartier des Boukhariens. Des bons à rien, comme dit ma femme. Bon, c'est une blague. Et ils étaient pratiquants. Alors, mon arrière-grand-père, ce n'était pas un grand, grand Talmid Chacham, mais il connaissait, il savait étudier tout ça. Et il avait aussi, c'était un fan de Kabbalah, et il avait la plus grande librairie de bibliothèque de livres de Kabbalah, la plus grande au monde. Et encore, il y en a encore quelques restes, beaucoup de gens ont volé, qu'ils ont mis à la fac, enfin je sais pas, il reste un peu quelque chose de ça, mais pas grand-chose. D'ailleurs, ça me rappelle rien à voir, mais bon, je raconte cette histoire-là, elle est intéressante. Lorsque je suis sorti de l'armée, j'ai fait l'armée en Israël, alors j'étais sportif, beau, grand, etc. Et mon oncle, j'étais dans l'appartement de mon grand-père, et... Partait en vacances toute la famille. La famille, les cousins, machin, tout ça, une cinquantaine de personnes, pour Pessah. Et il fallait un Sefer Torah. Alors, dans la famille, là-bas, il y avait un petit Sefer Torah. Ça coûte beaucoup plus cher, ça coûte 50 000 euros, quelque chose comme ça. Un petit Sefer Torah minuscule comme ça, tu peux prendre dans la valise, et voilà. Alors, il m'a dit, tiens, c'est le Boydem. C'est, on n'est pas comment, un Boydem en français, une sorte en haut, une sorte de grenier comme ça. Il fallait monter. Alors, toi, tu es sportif, allez, monte. Alors, je monte, tac, 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 j'arrive là-bas, je commence à toutes sortes d'affaires, voilà. Bon, je trouve le Sefer Torah, mais en passant, je vois aussi une enveloppe toute noire, c'est de papier photographique, ceux qui ont fait de la photo, c'est tout noir comme ça, c'est marqué dessus, Kabbalah Maasit, la Kabbalah en action, Rabbi Chaim Vital. Ça, c'était la trouvaille des trouvailles, c'est quoi Kabbalah Maasit? Surtout quand tu es un bal, tu vois, au début, tu aimes bien ça, Kabbalah Maasit, c'est tout ce que tu fais. Tu rappelles des certains noms de Dieu, tu fais des miracles, des choses extraordinaires. C'est super, super, super interdit à faire ça. Très, très grave. Mais ça existe et ça marche. J'ai vu ce truc-là. Alors, je dis à mon oncle, il était en bas, j'ai dit, eh, c'est quoi ce truc-là? Lui, il est Ponovitch, d'accord, tout à fait. Mon oncle a fait Ponovitch, tout à fait. Le contraire, quoi. Kabbalah Maasit. Il saute comme ça, tac, tac, c'est pas pour toi. Hop, il a caché, depuis jamais, ni vu ni connu, et Baruch HaShem. Qui sait si j'aurais tenu le coup, j'aurais pas. C'est très très grave de faire ça, d'accord? Ça marche, c'est très grave de faire ça. Alors c'est juste pour raconter que mon arrière-grand-père, voilà. Donc ma mère vient d'une famille religieuse à la base, pas complètement charédite comme nous on l'entend, mais bon, pratiquante. Et mon père, il vient du Liban. Famille Sfarad, très Il y avait là-bas où les bons, il y avait les synagogues, il y a le Shabbat, mais bon, il n'y avait pas le monde orthodoxe, ça n'existait pas. Et mon père, et à l'âge de 11 ans, il est devenu orphelin de son père. Et les sionistes d'Israël sont allés au Liban pour aller appeler les jeunes, venez en Israël. Et ils ont convaincu mon père, à l'âge de 14 ans, d'écrire une lettre à sa mère, comme quoi il partait. Et c'est une lettre, au milieu de la nuit, il est fui comme ça, il est parti, il venait en Israël. À l'époque, ils mettaient tous les sfarades, ils les mettaient dans les kibbutzim du Shomer HaTzair, c'était anti-religieux, anti-religieux total. Bon, alors mon père est venu au Shomer HaTzair, quoi, il n'était pas religieux. Il a fait l'armée ici pendant 5 ans, après venu s'installer en Jérusalem, un beau jour il a rencontré ma mère qui était très belle, et ils ont voulu se marier. Mon grand-père, lorsqu'il a appris ça, il a dit quoi? Un gendre qui n'est pas religieux, jamais de la vie. Ma mère, elle a fait une déprime, une vraie déprime. Alors, ils ont écrit au Rabbi Lubavitch. Et Rabbi Lubavitch a dit, si le gendre, il accepte de lui pour le faire Shabbat, Tarat HaMishpacha, Kashrut, Filin, c'est bon. Pas mon père, il a accepté. C'est un bon sfarad du Liban. C'est vrai qu'ici, on fait tout oublier, mais bon, il a accepté. Et ils sont mariés. Et quand ils sont mariés, ils ont acheté une petite maison à Beit Vagan. C'est un quartier très connu aujourd'hui, mais à l'époque, il y avait Beit Vagan, mais une maison et un jardin, il n'y avait rien, d'accord? C'était en 59. Mon grand-père, qui habitait ici en Israël, qui était riche, les impôts commençaient à lui tomber dessus. Il a fui, il est parti habiter à Genève, les affaires là-bas. Il a proposé à mon père, venez quelques mois ici à Genève, faites un peu d'argent, après vous rentrez de nouveau en Israël. Bon. Alors mes parents sont partis, ils sont installés à Genève. Et puis quand on fait un peu d'argent, si ça ne marche pas, ben on revient en Israël. Si ça marche, tu ne vas pas lâcher, on reste. Alors ils sont restés 51 ans pour finir. Ils ont fait beaucoup d'argent, mon père était très riche, Baruch HaShem. Et moi je suis né à Genève. Et dans une famille, donc, on pratiquait. On pratiquait, on fréquentait la communauté orthodoxe de Genève. C'était le Rav Schlesinger pendant un certain temps. Et ma mère, pour des raisons que j'ignore, quand j'avais 7 ans, elle a tout plaqué. Toute la religion, elle a quitté complètement. Elle a développé une haine terrible de la religion. Elle n'était pas la seule, ils étaient 12 frères et sœurs, beaucoup allaient dans ce sens-là, mais la chef de file, c'était ma mère. Super, super anti. Vous ne pouvez pas supporter. Voir une religion dans la rue, c'était l'insulte. D'accord? La haine de la Torah. Bon. Mon père, il suivait toujours, il a suivi pendant les jours. Cool, quoi. Mais je me souviens que tous les Shabbats, il nous prenait par la main, moi et mon frère, on allait à la synagogue, il nous racontait la paracha. Il y avait quand même, on vivait le jugement, d'accord. Ok, moi j'arrive à l'âge de 15 ans environ, et je me pose, j'étais torturé par les questions existentielles. Pourquoi j'existe? C'est quoi le but de la vie? Qu'est-ce qu'il y a? Dieu existe? Dieu n'existe pas. Je savais pas. La Torah, peut-être d'autres religions. À l'époque, c'était très à la mode, tous les trucs orientaux. C'était l'Inde, tout ça. J'ai commencé à regarder toutes ces choses-là. C'est pas... Ma mère était très très fan de ça aussi, ses sœurs aussi, d'accord. J'avais une tante qui avait un gourou là-bas, Babaji, d'accord. Folle. Elle est morte là, ma tante. On peut parler sur elle, Babaji. Bon, des trucs comme ça. Mais d'un côté, j'étais quand même aussi attiré par la religion juive. J'avais des cours avec un type, un grand tordu. À l'époque, j'aimais beaucoup et c'était passionnant ces cours, c'était de la philo juive. Mais bon, après, j'ai compris que c'était vraiment un grand tordu. Et on m'a proposé d'aller à Mayanot. Mayanot, c'était une sorte de... Comment appeler ça, une année entière, à Jérusalem, dans une maison. Il y avait un étage garçon, un étage fille, et il y avait des cours de judaïsme. Il y avait une fille de la communauté qui avait ça, elle m'a convaincu, j'ai dit, ah, ça a l'air intéressant, je vais y aller. Ok, Baruch HaShem, sur 30 ans de Mayanot, il y a une année ou deux semaines avant, ils m'ont appelé, ils ont dit, on ferme, on ne fait pas cette année. Il y avait trop de filles par rapport aux garçons, il faut que ça soit équilibré. Tu vois le genre, qu'est-ce qui se passe la nuit là-bas? Un étage fille, un étage garçon, un chien mishmor, d'accord? Heureusement que ça s'est annulé, parce que sinon j'aurais été un fan dans leur mouvement qui est faux. En tout cas, ce n'est pas le mouvement orthodoxe. Bon, alors je suis ici à Jérusalem. Je suis israélien. Vu que mes parents sont israéliens, je suis israélien. Maintenant, je n'ai pas le droit de rester en Israël. Il permettait de venir un an, vérifier après. Ou tu restes, ou tu pars. Si tu restes, il faut faire l'armée. Bon, pendant cette année-là, je suis allé à des cours à la fac d'hébreu, d'anglais, de trucs. J'ai commencé déjà à faire beaucoup de choses de première année déjà. Et il y avait des cours aussi de Torah. Passionnant. Il y avait un cours, une fois toutes les deux semaines, d'un rabbin, il m'a allumé. Il m'a allumé de l'allumer. Et là, j'ai décidé, je serai religieux. J'irai à la yeshiva. Et je reste en Israël. Et tu restes en Israël, il faut faire l'armée. Je vais le voir, il m'a dit, tu fais les deux. C'est un mouvement où ils font les deux, ils font yeshiva, armée. Bon. Alors, je vais dans une yeshiva comme ça pour voir comment c'est. J'arrive là-bas, je vois tous habillés en noir et blanc, tous en train d'étudier. Moi, je connaissais rien du tout. Je dis, je peux pas faire un truc pareil, ça marche pas. C'était yeshiva Takotel. Bon, alors, qu'est-ce que je fais? Ben, je reste en Israël, je fais d'abord la conquête physique. Un Israélien normal. Puis après, on fera la conquête spirituelle. Bon, je rentre à l'armée, très passionné. J'étais un passionné de Tsahal. Phénoménal, phénoménal. J'étais tankiste. Et je suis devenu commandant de tank. Après, je suis devenu Ganan. Ganan, c'est jardinier. C'est quoi jardinier? C'est enseigner à des élèves comment devenir commandant de tank. C'est un truc très très bien comme ça. Dans le sud, on était un peu partout, dans le Sinaï. À l'époque, il y avait encore le Sinaï. Après, Chizafone. On a ouvert Chizafone pour ceux qui connaissent. C'est la plus grande base de tankistes aujourd'hui en Israël. Et un beau jour, tu es déjà commandant. Bon, ben, il faut commencer à avancer, mon cher ami. Tu as dit physique, après spirituel. Alors, j'ai commencé pendant quelques mois déjà à ne pas allumer la lumière Shabbat, à ne pas rouler Shabbat. Mais bon, il n'y avait ni de filine, ni rien. Enfin, j'avais de filine toujours dans mon sac. Alors, une fois, le commandant, il a fait une vérification de tous les sacs. Et lui, il voulait de filine. Mais qu'est-ce que c'est? Je lui ai dit, bah quoi, je suis juif. Boum, je lui envoie un petit coup de canon comme ça. Je ne mets pas de filine, mais je suis juif, donc j'ai des de filine. Et un beau jour, je rentre chez moi à la maison, et je décide, bon, ça y est, il faut commencer à pratiquer. Je mets la kippa sur la tête, et je rentre à la base. Maintenant, à la base, personne ne savait que j'avais comme ça des sentiments de vouloir devenir religieux. Et il faut savoir qu'en Israël, les gens non religieux, très souvent, étaient anti-religieux. Et dans mon équipe, c'était l'équipe des commandants, c'était tous anti-religieux. Des gauchistes, vraiment. Toute la route, j'ai l'angoisse. Comment je vais annoncer la bonne nouvelle? J'arrive dans la tente. Et quand on sort, on met des habits de sortie, d'accord? Uniforme 1. Quand on vient à la base, on met uniforme B, de travail, d'accord? Alors quand tu sors, tu mets le béret noir, c'est les tentistes. Alors là-bas, tu mets une casquette verte. Bon, moi je me change, je mets l'uniforme B, et puis j'arrive pas encore à enlever et le béret, il y a la kippa dessous. Bon, une demi-heure passe, une heure et demie, tu as l'air idiot hein, en habit de travail avec ton béret de truc. Alors j'ai les copains, j'ai une annonce à vous faire, voilà. J'ai fait tchouva, j'ai enlevé le béret. Il y a un qui a éclaté de rire un peu comme ça, l'autre, ils ont respecté. C'est, je crois, une des choses les plus dures de ma vie. Et ça, et venir à l'échiva, après je vous raconterai aussi Blin Nader, son matin aujourd'hui. C'était 3 semaines avant la guerre du Liban. Et je crois que grâce à ça, que je pourrais envoyer 2 anges qui m'ont pris comme ça et m'ont fait passer toute la guerre. La guerre du Liban était séparée en 2 parties. Il y a eu 1 semaine de guerre, après 1 semaine d'arrêt, après 1 semaine de guerre. Première semaine de guerre, notre base était près des Lattes. Le Liban, c'est tout au nord. Alors on prépare les tanks pour être pris par des camions qui vont les prendre. Après, on part en bus, on arrive dans le nord, on attend que les tanks arrivent et on rentre comme ça dans le Liban. Au milieu de la route, mon commandant me dit, écoute, tu vas rester ici, ton tank a des problèmes, il va arriver en dernier, donc tu descends ici. Non, en fait, on devait partir au Golan, après on devait se tenter aller au Liban, donc il y avait une intersection. Mais tu restes ici avec ton équipe et tu dis à tous nos tanks à nous de ne pas monter au Golan, de monter vers le Liban. Bon, ce qu'on a fait. Et puis, mon tank n'arrive pas. Il n'arrive pas. Bon, après la guerre, j'ai vu qu'en fait, il est resté là-bas. Pour des raisons que je ne peux pas trop vous raconter, il est resté là-bas. Bon, alors, qu'est-ce que j'ai fait? À la fin, j'ai pris mon équipe et on est monté. On rentre au Liban, mais pas sur un tank, sur un blindé. D'accord? Un blindé sans canon, une petite mitraille comme ça. Puis la guerre, c'était très simple. Il y avait trois axes. Bon, le Nakhmat, c'était l'axe du centre. Il y avait une petite rue qui faisait peut-être, allez, une route qui faisait 4 mètres de large et un grand bouchon sur des kilomètres. Le premier se bat, tout le monde suivait comme ça. C'était un grand bouchon. Bon, alors on a eu le grand bouchon pendant une semaine. Et après, à la fin de la semaine, je rencontre mon unité, je rentre dans l'unité. Et là, il y avait toujours un qui partait pour des vacances, je prenais son tank à lui, donc j'étais tankiste. Et donc j'ai eu la deuxième semaine, j'ai pu avoir un tank. Et bon. Alors qu'est-ce qu'il y a eu comme miracle? Il y en a eu beaucoup. D'abord le fait que mon tank n'est pas arrivé la première semaine, qui sait ce qui se serait passé avec. Deuxième, vu que j'étais un passionné de guerre, je voulais voir un peu du action, d'accord. On est arrivé à un endroit comme ça, on a tous garé. Il y avait un monticule, peut-être allez, on était 20 mètres de haut comme ça, et on était caché derrière. Moi je monte au haut du monticule, et puis je vois, il y avait un village arabe, et je vois les avions comme ça, les Skyhawks qui plongent, tac tac, les bombes qui sortent, qui remontent, avec aussi des leurres contre les missiles, d'accord, psh, extraordinaire, du live, d'accord, je regarde avec les jumelles, chaque commandant tank il a des jumelles, donc je regarde comme ça, ta 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 ta. Et puis il y avait deux collines comme ça, et je vois les camps, c'est les Golani qui en marchant comme ça pour aller conquérir le. Ah, c'est la guerre en live, fantastique. Je regarde, super content de faire ça, et c'est l'erreur à ne pas faire. Parce que tu te mets sur un petit monticule en face, comme ça, de l'ennemi. Et toujours dans les combats, tu as toujours un officier qui s'occupe de bien regarder et de renseigner, et dire là, tirer ou tirer, d'accord. Et ils croient que c'était moi. Enfin, ils ont vu un ennemi comme ça. Au bout d'un moment, je dis allez, je rentre. Je m'éloigne de l'endroit où j'étais, je fais peut-être 4-5 mètres, il y a un boom énorme. À l'endroit où j'étais, pouf, moi je tombe par terre de l'onde de choc, plein de sable qui me tombe dessus, Baou Hachem. Je serais resté encore 5 secondes là-bas, il n'y aura plus de Ronchaya sur terre. C'est un des miracles. Je descends, je me dis attention, attention, il y avait par terre un morceau de bombe à fragmentation. D'accord, tu mets ton pied dessus, tu ne meurs pas, mais tu n'as plus de pied. D'accord. Alors Hachem, il se mord. Bon, voilà, des trucs comme ça.
Et un peu,
pas du tout. Pas du tout. Au contraire, on était fous à l'armée, on voulait du combat. Il y avait des gens qui venaient après le service. Ils m'ont dit, arrête de parler comme ça, prie que tu viennes à la maison en bon état. Voilà, c'est pas. Quand tu es à l'armée, tu deviens un fan du combat. C'est comme ça qu'on te formatise. Ok. Notre partie à nous, c'est nous, on est rentré sur la route. Moi, j'ai le troisième tank de l'armée qui est rentré sur l'autoroute Beyrouth-Damas. Et une autoroute comme ça, on est rentré sur l'autoroute. Il y avait des tanks syriens qui sont en train de brûler, qui ont été touchés par l'unité qui rentrait avant, qui était avant nous là. Mais on s'est dépassé, on est rentré comme ça. Ah, c'était terrible. Alors, peur énorme. La peur, c'est terrible. Ah, il s'est passé un truc terrible aussi. Juste auparavant, on est arrivé à un endroit, sur une petite monticule comme ça, en plein Liban, hein. On s'est installé pour passer la nuit. T'as les tanks éloignés chacun de 20-30 mètres, comme ça. Et sur chaque tank, dans chaque tank, il y a 4 personnes. Et on partage la nuit, c'est 6h une nuit, on partage en 4 parties de 1h30 où t'as quelqu'un qui fait la garde. Alors on a mis la première garde, c'est la plus sympa, c'est pas qu'on te réveille. Tu es encore réveillé, comme ça, et après tu vas dormir une bonne nuit de 4h30. On a mis le conducteur, parce que lui, toute la route, c'est lui qui travaille. On peut même monter la moitié endormi, lui, d'accord. Bon, c'était un type pas très bien, et il s'est endormi. Dans la garde, c'est extrêmement grave. En attendant, l'unité a reçu un ordre, avancer. Et tous, ils sont partis. Et nous, on a fait avec nos tanks sur le petit monticule en plein Liban, infesté, il y avait des commandos syriens, c'est super dangereux. Tout seul comme ça, endormi. Tout à coup, quelqu'un me réveille, c'est le second du chef de l'unité. On est parti, qu'est-ce que tu fais là? Tout ça, je prends tout, je me fais engueuler par le chef de l'unité. Il dit, si t'es proche de moi, je peux envoyer un obus dans la figure. Mais c'est pas moi, c'est mon conducteur, ils sont endormis, etc. Bon, on part, on les rejoint. Pourquoi je vous raconte ça? Il m'a tellement engueulé, le chef de l'unité, que... Après, j'ai besoin de lui parler, j'ai pas osé lui parler. Lui, il a dit, quand vous arrivez, alors on a pris la route, l'autoroute, hein, on va sur l'autoroute. D'abord, c'est très différent. Nous, on est habitué à rouler dans des sables ou dans de la boue. La route, alors le conducteur aussi, il tourne un peu, tout coup, le tank se met à tourner comme ça. C'est en pleine nuit, d'accord. Il n'y avait rien sur la route. Mais bon, on devait s'habituer à rouler sur l'autoroute. On arrive à l'intersection, et le commandant nous a dit, vous avez l'intersection, vous tournez à gauche, pas à droite. Bon. Maintenant, il faut comprendre qu'on est 12 tanks, et tout le monde parle. Il y a un bruit, tout le monde parle ensemble, d'accord, c'est terrible. On arrive, et je ne sais plus, gauche ou droite. Ah, il fallait que je lui pose la question, mais il allait me descendre. Je demande à mon coéquipier, dis-moi, c'est gauche ou droite, il a dit. Je crois qu'il a dit droite. Moi, je pense qu'il a dit gauche. Allez, on prend gauche. Baruch HaShem. Un de mes copains, il a pris droite. Il roule, il arrive plein dans un camp de Fedaïn, de Palestiniens, d'accord. Il arrive dans le camp. Il se met à foncer dedans, il en écrase quelques-uns sur la route comme ça, il s'est tiré dessus, mais Baruch HaShem, il est ressorti de l'autre côté. En attendant, toute l'armée israélienne s'est arrêtée, parce qu'on savait qu'il y a un tank qui allait arriver, un tank à nous, qui allait arriver en face. Tout ce qu'on voit descendre de la montagne, le tank qui est passé sur la droite, il descend, comme ça, arrive sur le droit, il arrive comme ça, c'était très très... Bon, il arrive, il s'est planté comme ça. Voilà, heureusement que Baruch HaShem, donc je vais appeler le côté droite, et voilà, ça c'est pour la guerre à peu près, quoi. Ils m'ont rajouté encore 3 mois d'armée supplémentaire à cause de la guerre. Et là, j'ai quitté. J'ai quitté donc l'armée.
Vous avez eu marre ou c'est
parce que... Non, je devais faire, vu que je suis arrivé plus tard à l'armée, je fais 2 ans, à la place de 3 ans. Et ils m'ont rajouté encore 3 mois en plus à cause de la guerre. Donc, en été, je me suis libéré. Et je suis allé dans une yeshiva, ça ne m'a pas plu. En attendant, un de mes oncles est décédé, donc pendant une semaine j'étais avec eux pour le truc, et après quelqu'un m'a dit, un rabbin que j'avais connu à Genève, d'Israël, m'a dit, tu veux la vérité, la vraie vérité? Il m'a conseillé une yeshiva. C'était dans un quartier orthodoxe. J'arrive là-bas et j'ai eu la deuxième plus grande épreuve de ma vie, c'est qu'il fallait monter, comme si je suis dans la yeshiva, il fallait monter des escaliers pour arriver au premier étage. Il y avait une porte. Bon, je monte une marche, je monte 2 marches, et je sens que chaque marche que je fais, je soulève des montagnes. Il faut comprendre que l'Yetzer Hara ne veut pas qu'on rentre. Si on rentre à l'Yeshiva, il est fichu, l'Yetzer Hara. Tu deviens après un Tamil Chacham, enfin c'est fini, d'accord. Il se bat de toutes ses forces, mais avec rien de logique. C'est une peur, d'accord, une peur énorme, j'avais peur. Je monte 3-4 partout quand j'entends un cri en Yiddish. Oh, j'étais glacé. Yiddish. Je tourne, je suis parti. Je suis chez ma grand-mère qui habitait ici. Et puis après, je me suis dit, non mais je comprends pas. Il y a quelques mois, tu étais au Liban, dans un endroit, comme j'ai raconté, infesté de commandos syriens, etc. Tu as tenu le coup, tu es revenu vivant. Là, parmi tes frères à Jérusalem, tu ne veux même pas rentrer. Tu rentres dedans, tu te bouches le nez 10 secondes et tu ressors. Mais pas t'arrêter dehors. Je repars l'après-midi. Je monte 1 marche, 2 marches, 3 marches. Oh là 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 là, c'est mon épreuve la plus dure de ma vie. J'arrive là-haut, j'ouvre la porte, je vois un type en jeans souriant, qui me fait un grand sourire. Oh, génial, d'accord, je vois des gens normaux. En fait, il y avait en bas une shiva de Hasidim, Yiddish, d'accord. Ça fait peur, c'était pas mon monde, c'est toujours pas mon monde, d'accord. Mais ça faisait très très peur. En haut, des gens normaux, en jeans, souriant, tac. Bon, et voilà, Baruch HaShem, comme ça, je suis rentré à la shiva. C'était ma deuxième plus grande épreuve de la vie. C'est une yeshiva, c'est Torah Ve'emouna. À la base, la direction, c'est la chassidut de Bez, des chassidim. Mais toute l'équipe, ce n'est pas des chassidim du tout, c'était au contraire, c'était l'équipe israélienne de ceux qui faisaient, faisaient des séminaires pour faire tchouva aux gens. La Rav Neugershal, très très connu, la Rav Ben Menat. Le premier prof que j'ai eu, c'est Rav Ben Menat. Quand je suis rentré, il m'a dit, tu viens d'un séminaire. Je lui ai dit, c'est quoi un séminaire? Assieds-toi. Je ne sais pas ce que c'était, c'est un séminaire. À l'époque, c'était une semaine en Israël. Tu rentrais non religieux, sortais religieux. D'accord? C'était pour convaincre. Rav Neugershal, c'est un des plus grands conférenciers, c'était mon prof de Gemara. Rav Menat, j'ai dit, etc. Et beaucoup de... Comme ça, c'était les grands noms de la tchouva israélienne. Bon, j'étudie, mais je baigne dans ce milieu de tchouva. Puis après, je me suis marié avec une jeune fille de Genève, d'accord. Et je suis resté là-bas au Kollel. Et j'ai eu une envie terrible de commencer à parler aux gens de la Torah. Et j'étais dans le milieu des gens qui parlaient aux gens de la Torah. Je me suis dit, est-ce que je fais en français ou en hébreu? Je parlais mieux l'hébreu que le français à l'époque. J'avais oublié le français. J'étais avec l'Israélien sans ça, je parlais mieux l'hébreu que le français. Aujourd'hui, c'est fini. Depuis la yeshiva, je parle mieux le français que l'hébreu. Je n'ai même pas d'accent. Aujourd'hui, j'ai un petit accent français encore en hébreu. Aujourd'hui, à l'époque, je n'avais rien du tout. Je décide, français. Il n'y a personne qui fait ça en français. Je le fais. OK. Alors, j'ai commencé à étudier une des conférences qu'il faisait. Et en attendant, j'avais déjà changé de collègue. Et à côté de moi, il y avait un type qui avait un accent français terrible. Il s'appelait Chaim Ziegler. Et moi, je croyais... Donc, j'avais une place de libre. Il n'y avait personne et lui était à côté. Et moi, je croyais que lui ne savait pas que j'étais français. En fait, il savait. À cette époque-là, il me dit, ça t'intéresse d'apprendre des conférences de Arachim et de commencer à faire choix. Ouais, ça m'intéresse. Et les deux, comme ça, on a appris. Et on a commencé à travailler ensemble. Lui était un très grand conférencier de Arachim, et en hébreu et en français. Je crois même voir qu'il est décédé. Un boulot, il est rentré le matin à la maison, il s'est mis sur son fauteuil, il est mort comme ça, sur le fauteuil. OK. Il n'y avait rien en français. Il y a un type qui était un fan du Rav Elbaz en France, qui s'appelle Pinchas Adam. Et il a organisé une équipe de Français, trentaine, quarantaine, à venir en Israël faire un séminaire en français. Donc il a parlé à Arachim. Arachim, c'était la boîte qui faisait le séminaire. Alors eux, ils connaissaient Chaim Ziegler. Moi, ils me connaissaient aussi, donc ils nous ont demandé à nous si on était d'accord de faire des conférenciers pour ces gens-là. On était d'accord, c'était un hôtel ici à Jérusalem, on était en train de parler. Très bien. Ça fait une deuxième fois aussi, de nouveau. Après, Pinchas Adam nous a demandé de venir en France. Il y avait, en attendant, une autre équipe qui s'organisait en France, qui n'était pas du tout contente que nous aussi on se mêle de ça, qu'on commence aussi à faire ça. Bon, c'était compliqué. Pour finir, on a quand même commencé à faire des séminaires en France avec Chaim Ziegler, mais c'était au nom de Or HaChaim, parce que Pinchas Adam, c'est un fan du Rav Elbaz de Or HaChaim. Ces séminaires, c'était extraordinaire. Ça commençait bien, voilà, ça marchait bien. Au lieu de faire une semaine pendant l'Israël, on faisait deux jours. C'était les premiers au monde à faire des séminaires de deux jours. Les gens arrivaient vendredi après-midi, ils partaient dimanche après-midi en pleurs. La moitié se pleurait. Et faisaient tchouva. La moitié faisait tchouva. Et la moitié de cette moitié arrêtait de faire tchouva. Probablement, ils retombaient. Mais bon, c'est déjà bien. Et tout le monde peut dire, 99% étaient convaincus que la Torah était d'origine divine. C'était vrai, très très bien. Et j'ai commencé à faire, on a fait en France, on a fait en Belgique, on a fait au Canada, on a fait au Maroc, même en Suisse on a fait. Au Canada, il y avait un jeune homme de 17 ans qui amenait des dizaines de jeunes au séminaire. Il était comme ça, il amenait des jeunes comme ça. Il s'appelait Michael Ifra. À chaque semaine, il amenait comme ça, tout ça. Puis un jour, il m'a dit, Rav, ouvre une yeshiva. Laisse-moi tranquille, c'est ce qui m'intéresse surtout pas. Et comme ça, à chaque fois que j'allais au Canada, il me chauffait là-dessus. À la fin, j'ai dit, OK, j'ai relevé Rav Elbaz. En attendant, j'avais ouvert une section. En attendant, vu qu'on travaillait pour le Rav Elbaz, le nom de sa yeshiva, donc je vais le voir. Il y avait une section française, mais elle ouvrait, elle fermait, elle ouvrait, elle fermait, elle avait fermé. Je vais voir, je vais l'écouter. Moi, je prends sûrement la section française. Non, non, j'ai fait souvent, ça s'ouvre, ça ferme. Écoutez, moi, je paye. Vous me donnez les locaux, vous me donnez la nourriture, moi, je paye les profs et tout ça. Il me dit, d'accord. Bon, viens, je te montre où sont tes locaux. Il m'amène là-bas. Il me dit, tu sais où tu es? Je dis, non. C'était, la yeshiva se trouve dans le quartier des Boukharim, où habitait mon arrière-grand-père. Il m'a dit, tu es dans l'appartement qui appartenait à ton arrière-grand-père. C'est là-bas où j'ai ouvert la yeshiva, dans l'appartement de mon arrière-grand-père. Extraordinaire. Et comme ça, pendant deux ans, donc on a ouvert une section. On arrive à une quinzaine d'élèves environ. Puis un beau jour, il y a eu des histoires, et j'ai dû partir. J'ai dû partir, et j'ai étudié avec Rav Elbaz. Il m'a dit, viens, on ouvre une yeshiva. Moi, je m'occupe, je suis directeur, toi, tu le rush yeshiva. Et on a ouvert une yeshiva. Tous les élèves que j'avais là-bas, ils sont venus avec nous. Et on a ouvert comme ça la yeshiva, c'était en 1994, ça fait il y a 32 ans. Et bon, Hachem, on a fait des séminaires. Après, j'ai dû quitter aussi l'équipe Or HaChaim, il y avait des histoires, des jalousies, des trucs comme ça, à envers une équipe qui s'appelait Or Haïta. Et là aussi, en 2002, ça a pété un câble, alors j'ai ouvert les Hava. Voilà.
Vous êtes le premier sur YouTube, enfin sur Internet sur...
Alors, un jour, Eliyahu Hassan, c'est un prof de pas connu, il était prof, un de mes premiers élèves, un de mes premiers profs ici à l'Eshiva, il est très connu. Il m'a dit, ah, pourquoi vous faites des séminaires? Faites sur Internet. faites des cours. Bon, on a pris un cours, on a filmé, on a mis, 1000 personnes ont vu ça. Enfin, c'est extraordinaire. Un séminaire, ça coûtait 18 000 euros. Il fallait trouver les 18 000 euros. Parce que les gens ne viennent pas comme ça, on leur offre un bel hôtel, tout ça, très bon marché. Donc ils viennent pour ça. Et après, boum, on leur tombe dessus. Ils faisaient tchouva. On a commencé Internet. Maintenant, les séminaires, ça marchait très bien. Mais moi, j'ai un problème. Au séminaire, les femmes viennent habillées pas comme il faut. Ah, il faut lui parler sans regarder plus bas que le cou. C'est pas toujours facile. Alors, je connais bien un séminaire, deux séminaires, trois séminaires. Et à chaque Kippour, je pleurais sur cette avéra terrible de ne pas regarder les femmes. J'en avais marre. Après 20 ans, après 20 ans déjà que je fais les séminaires, j'ai dit, j'en peux plus. Je vais aller voir le Rav Steinman, le grand de la génération. Je lui ai dit, je veux arrêter les séminaires. Maintenant, un séminaire, tu comprends ce que ça veut dire. Il y avait entre 80 et 100 personnes qui venaient, la moitié qui fait tchouva, et l'autre moitié qui sait que la Torah est d'origine divine. Ça, ça a un impact phénoménal. À cause de mes bêtises là, que je ne veux pas regarder des bonnes femmes, tu rates ça. Il m'a dit, fais que pour les garçons. Je lui ai dit, ouais, mais il n'y a pas que le séminaire, il y a aussi la route. Les hôtesses, les affiches à Paris, tout ça, je peux pas. 10 minutes comme ça, on a discuté. À la fin, il m'a dit, s'il y a un danger, aussi petit soit-il, pour ta spiritualité, arrête. Je sors, victory, plus de séminaire. Par contre, exactement à ce moment-là, on a commencé Internet. Maintenant, combien ça coûte de filmer là, comme ça? Rien. D'accord? Rien de rien. Et on a mis, comme ça, comment t'as été très bien. Ça commençait bien. Et au bout d'un moment, j'ai mis les grands cours du séminaire, qui étaient la preuve irréfutable, je les ai fait en Internet, on a mis, bah, Hashem. Et depuis, on travaille sur Internet, ça marche très bien. Ça a beaucoup d'avantages. D'abord, comme je dis, c'est bon marché. Ensuite, le problème du séminaire, c'était que les gens faisaient tchouva, mais après, il n'y avait pas de suivi. Alors, on l'envoyait au rabbin de sa communauté, mais lui, ouais, le séminaire, c'était vraiment des trucs extraordinaires. Ça marchait pas, ça marchait pas. Et moi, j'essaie d'appeler les gens au téléphone, mais j'ai une peur bleue du téléphone. Ah, j'avais un yetzer hara terrible. Mais il y en a à qui j'ai appelé comme ça. Grâce à ça, ils ont tenu. Ils ont fait Shabbat, ils ont commencé. Leurs enfants m'ont dit, grâce au téléphone, vous avez tenu. Mais beaucoup, j'ose même pas appeler. C'est terrible, c'est un gros yetzer hara. Il faut que je sois trouvé là-dessus, Bezrat Hashem. Là, il n'y avait plus. Avec Internet, tu as un suivi. Tu as 3 cours par semaine minimum, d'accord. Les gens, ils suivent. Au bout de 6 mois, le type, il tombe comme un fruit mûr, d'accord. Celui qui commence à regarder, il aime bien. Au bout de 6 mois, il fait tchouva. D'habitude. Donc, c'était extraordinaire. Voilà. Qu'est-ce que je peux encore
Et le processus, quand vous étiez à l'Aïcha, comment vous avez progressé aussi rapidement?
Ben, je n'étais pas idiot. Je parlais hébreu couramment. Donc c'était une yeshiva comme la mienne, voilà. Et il y avait des classes, alors j'étais chez les débutants. D'ailleurs, je voulais passer déjà à la classe numéro 2, puis il me disait non. Alors j'ai pris la voiture, ça va le Rav Char. Le Rav Char, c'est le grand de la génération, c'est pas plus grand, c'est le top niveau, d'accord. Le petit élève qui est en première de Balé Tchouva, il va aller en classe 2, le Rav Char. À Raponovitch, le Rav, il descendait, il y avait une sorte de colline comme ça, il descendait sur un chemin en terre, tac, je l'attrape. Mais pourquoi ils ne veulent pas te faire passer? Je ne sais pas, je veux passer en classe 2. Mais pourquoi ils ne veulent pas te faire passer? Je ne sais pas. Et bon, reste encore 3 mois, après tu passeras. Ah, pour te dire, on était du feu, vraiment du feu. Et j'étudiais comme une bombe. Ah non, j'étais passionné. Vraiment passionné. Baruch HaShem. Je vais vous raconter une histoire qui date de vendredi passé. Dans mon équipe qui met les cours sur Internet, je n'ai pas eu des problèmes derrière moi, je ne suis même pas au courant. Mais au lieu qu'il y ait 3 cours par semaine, il n'y avait plus qu'un cours par semaine. Ce que je fais sur la paracha, parce que tu ne peux pas le mettre après. Et d'autres cours que j'ai faits, ils n'ont pas été mis dernièrement. Alors on en a parlé la semaine passée, ils ont commencé à les mettre. La semaine passée, vendredi, je vais sur le site, et je vois qu'il y a un cours qui a été mis jeudi, un jour. 12 000 personnes qui l'ont vu. C'est bien 12 000 personnes, c'est beaucoup en un jour. Mais je vois le titre, ça s'appelle le compte à rebours a commencé. C'est quoi ce cours-là? Je ne sais pas de quoi il s'agit. En fait, ça date d'il y a 2 mois. J'ai regardé le cours, passionnant. vendredi matin, j'ai regardé le cours jusqu'aux deux dernières minutes, d'accord, 20 minutes comme ça, c'était passionnant. Et ça m'a fait faire tchouva, Baruch HaShem, j'ai pris sur moi de fantastiques comme cours. Et là, j'ai vu la main de Dieu. D'abord, c'est beaucoup mieux que ce cours il apparaisse maintenant, qu'il y a 2 mois. Parce que maintenant, on est au bord, ou cette semaine, la semaine prochaine, la mairie va attaquer l'Iran. C'est la fin. Maintenant, quand tu vois ce cours, je vous dis, moi-même, j'ai regardé ça. Je connais le métier, hein. Ça m'a super chauffé. Super chauffé. Et qu'est-ce que je raconte là-bas? Que mon voisin, comment je suis comme ça, hier, quelqu'un, je pose la question, qu'est-ce qu'on fait? Et Josh, il dit, comment faut se préparer pour Mashiach? Ah, c'est une bonne question. Ok. Alors, je raconte que hier, mon voisin m'a parlé. C'est une bonne entrée en matière dans un acte. Hier, mon voisin m'a parlé, les gens s'attirent, qu'est-ce qu'il lui a dit, d'accord? Et il m'a raconté, je vous racontais déjà, je vous le répète rapidement, il a dit que le dernier verset de l'Ecclésiaste dit sauf d'abord à Konishma. À la fin, tout sera entendu. Et la crainte de Dieu, elle fait ses mitzvot parce que c'est ça tout l'homme. Et la traduction en araméen qui a été faite il y a 2000 ans, elle dit c'est quoi à la fin, à l'époque messianique, on verra tout. Sur le front de chacun, on verra tous les péchés. Donc fais tchouva. Oh là là. Ah là, ça m'a. Aujourd'hui, après la prière, dans mon bureau, j'avais du temps. Je vous dis, j'ai fait Shabbat, on ne peut pas. Shabbat, j'ai été pris de sentiment, on peut faire tchouva. Dans mon bureau, là, j'ai dit, j'ai péché ci, j'ai péché là. Il faut se préparer, hein, il faut se préparer vraiment. Bon, c'est à peu près le point intéressant et toute la suite du cours après. Pour vous dire, j'ai vu la main de Dieu. Parce que je pense que pendant ces 2 mois, ça n'a pas été mis à cause des histoires internes qu'on a eues, mais en fait, c'est très bien que ce soit mis maintenant. Et en plus, pour moi aussi, ça m'a super chauffé, d'accord? Donc on voit la main de Dieu, c'est extraordinaire comment il gère, d'accord? Mon voisin me raconte ça, mais j'en parle tout de suite, mais ça apparaît que 2 mois plus tard, au bon moment. Et je dis, hier, mon voisin m'a raconté. Voilà, donc Bezrat Hashem, il faut faire tchouva, ça c'est la fin de l'histoire, la moralité. Il faut refaire tchouva et refaire tchouva et faire tchouva aux gens aussi si on peut. Et je remercie Hachem qui m'a permis de faire cette grande mitzvah, de faire tchouva aux gens. Il n'y a rien que j'ai plus au monde, d'accord? C'est passionnant. Et votre Hachem, j'espère que je n'aurai pas trop allé en enfer, parce que peut-être j'aurais pu faire beaucoup plus. Hein. Allez savoir. Baruch Adonai, l'Olam, Amen ve Amen.